Azuros.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 18 avril sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Benoît Séverac. Bonjour Benoît.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons parler de son roman intitulé Le garçon de l'intérieur, publié aux éditions Syros. Mais comme à l'accoutumée, la page info. Alors avec une petite pensée particulière pour Gabriel Garcia Marquez, qui nous a quittés... Eh bien aujourd'hui, ou hier d'ailleurs, je ne sais plus, mais enfin récemment, très récemment, et qui était notamment l'auteur, bien sûr, de « Cent ans de solitude », entre autres. Donc voilà, une pensée pour ce grand écrivain disparu maintenant. Ensuite, pour jeudi 24 avril à 19h30 au restaurant panoramique La Table du Belvédère, situé au 11 boulevard des Récollets à Toulouse, aura lieu un dîner littéraire avec Frédéric Martin autour de son roman épistolaire Le vase où meurt cette verveine aux éditions Belfond. Alors pour tout renseignement et pour réservation nécessaire, un numéro de téléphone, le 05 62 26 69 14.
Page à page, Claire Ambille.
Alors Benoît Séverac, oui, une petite, voilà, donc je disais Benoît, tu étais venu la dernière fois pour le roman Silence, publié chez Syros, et puis encore avant pour Rendez-vous au 10 avril, et puis le premier livre que tu avais écrit s'intitulait Les Chevelus aux éditions TME, donc aujourd'hui c'est le quatrième, et puis on va voir, il y en a un qui est sorti également, L'Homme qui dessine aux éditions Syros aussi, qui fera l'objet d'une autre émission prochaine sur Radio Occitanie.
Oui, Le garçon de l'intérieur est un deuxième volet aux aventures de Jules, qui était le héros de Silence.
Tout à fait.
Garçon de l'intérieur qui se passe...
En Alsace, on va le voir. Voilà. Alors moi, j'ai bien aimé ce roman parce que bon, c'est un roman plein de suspense, déjà, il faut le dire. Jusqu'aux dernières pages, on est tenu en haleine par le suspense de cette histoire, de cette enquête que va mener Jules en Alsace, justement.
Oui, il est beaucoup plus polar que ne l'était Silence.
Tout à fait.
Vraiment plus introspectif.
Oui. Et puis, il est riche d'histoire aussi, puisqu'il aborde la période noire de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, de l'annexion en fait.
De l'annexion, voilà, plus exactement.
L'Alsace a été annexée,
de l'annexion de l'Alsace.
Pas seulement occupée. Ouais.
Tout à fait. Et puis aussi, il y a l'évocation dans ce roman du monde et de la perception des personnes déficientes auditives.
Oui, c'était déjà abordé dans Silence, parce que dans Silence,
Jules est devenu sourd. Voilà.
On apprend comment Jules devient sourd à l'âge de 15 ans. Donc la problématique de la surdité est omniprésente, effectivement, mais elle était plus là en tant que choc ou traumatisme, et tout le roman était basé autour de cette initiation, de cette reconstruction que le gamin devait suivre.
Oui, quand on devient sourd à 15 ans, il faut se reconstruire après ça.
C'était vraiment un roman initiatique, alors que dans Le garçon de l'intérieur, la problématique de la surdité a pris un peu plus d'importance, dans la mesure où c'est lui, 9 mois plus tard, donc après une année scolaire passée dans un centre pour déficients auditifs. Donc là, je ne pouvais plus raconter n'importe quoi sur les sourds.
Donc,
il fallait que je me penche sur cette question-là plus en profondeur.
Et d'ailleurs, tu as séjourné à Clermont-Ferrand dans un établissement.
Alors j'ai rencontré à Clermont-Ferrand des élèves sourds et déficients auditifs en ULIS, c'est-à-dire en inclusion, ce qu'on appelle l'inclusion. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des handicapés, il y a différents handicaps concernés, mais là ce sont des sourds qui essaient de suivre une scolarité normale.
Voilà, dans l'unité localisée l'inclusion scolaire. Voilà ULIS,
c'est ça. Donc c'est l'idée de permettre à des sourds de suivre une scolarité dans un établissement normal.
Gérard Philippe de Clermont-Ferrand.
Voilà, c'est ça. J'ai aussi rencontré des sourds, alors là, c'était des sourds signeurs à 100%, c'est-à-dire des gens qui ne communiquent qu'en langue des signes, dans un centre pour sourds, un centre spécialisé pour déficients auditifs à Albi. Et j'ai rencontré Chrysostome Gouriot,
qui est écrivain interprète en langue des signes.
Très belle écrivain, française. Très belle personne. Et qui est donc interprète en langue des signes, et qui m'a parlé de tout ça. Voilà, il a fallu que je me penche sur cette question-là, parce que la surdité est un monde très très inconnu. Nous, entendants, ne connaissons que très peu de choses sur les sourds. Il ne se voit pas, un sourd, ça ne se voit pas. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ça se voit. Quelqu'un qui est aveugle, ça se voit.
Mais
un sourd ne se voit pas dans notre société. Et surtout, il n'y a pas un sourd. Ce n'est pas un monde ou une communauté uniforme. Il y a des sourdsigneurs, il y a des sourds...
Des oralistes.
Il y a des appareillés, il y a des implantés. J'ai même vu des sourds par alternance. Des gens qui sont sourds par moment de leur vie. Ouais, c'est très étonnant, mais voilà.
Donc là, on découvre un peu ce monde dans ce livre. Enfin, on a un peu des explications. On apprend des choses. Moi, j'ai appris des choses en lisant.
Alors, la littérature ne sert pas à ça, mais j'aime bien, moi, que les romans servent aussi
à apprendre, à découvrir.
Bon, ça me permet, moi, déjà, de découvrir quelque chose.
Oui, parce que tu dis d'ailleurs, tu les remercies, bien sûr, ces ados de la section ULIS, en disant qu'ils t'ont ouvert les oreilles aux différentes façons de vivre la surdité.
Ben, le métier d'écrivain permet aussi de rencontrer des lecteurs à un moment donné. Et oui, je crois qu'il faut rester... ça doit être un échange dans les deux sens. Et moi, j'aime bien qu'on m'apporte des choses à travers ce genre de rencontres.
Hein. Et après, tu les retransmets donc dans ton livre. Et puis nous, en tant que lecteurs, on en profite aussi.
Oui, je me nourris de tout ça et j'essaie de nourrir les autres avec ça. C'est le but de l'humanité, non ?
Oui, tout à fait. Et puis tu remercies aussi tes amis alsaciens, bien sûr, parce que tu as vécu quand même 6 ans en Alsace.
Oui. C'était 6 années très, très belles parce que ça a été des années cocon. C'est des années pendant lesquelles j'ai fondé ma famille, etc. Donc il y avait tout ça. Et en même temps, 6 années très, très instructive dans la mesure où l'Alsace ayant cette identité régionale très forte, je sais qu'on doit y être sensible sur Radio Occitanie, mais ça m'a obligé à me questionner moi sur mon identité, parce que les Alsaciens ont cette histoire douloureuse qu'évidemment la question de l'identité est centrale, et ça oblige quand on est français de l'intérieur, parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent, enfin en tout cas une certaine génération nous appelle, de façon pas du tout péjorative, de façon très factuel, nous sommes les Français de l'intérieur, ça oblige à se positionner, à se questionner, qu'est-ce que c'est qu'être Toulousain en Alsace, qu'est-ce que c'est qu'être Français aujourd'hui, bon, tout ça, moi ça m'a intéressé.
Oui, c'est justement le titre du roman, Le garçon de l'intérieur, c'est justement le nom que donnent les Alsaciens à leurs compatriotes français qui vivent de l'autre côté des Vosges en fait.
C'est ça, eux se considèrent à l'extérieur un petit peu, c'est très, d'ailleurs c'est probant, ça apporte beaucoup d'informations sur leur perception de leur nationalité française, mais c'est une réalité. Ils sont coincés entre les Vosges et le Rhin, et ils sont un peu à part, et en même temps ils sont là, donc nous sommes les Français de l'intérieur. Bon, évidemment il y avait le jeu de mots aussi avec l'intériorité que peut ressentir quelqu'un qui n'entend pas.
Oui, voilà, tout à fait. Alors donc ça se passe en Alsace, donc justement tu t'es inspiré d'un village viticole près de Colmar et non loin de la Forêt Noire. Alors dans le livre il s'appelle Nérussen, mais en fait c'est un anagramme d'un vrai village qui existe là-bas en Alsace.
Oui, c'est le petit village de Husseren-les-Châteaux dans lequel j'ai habité. Et je voulais pas, comme j'invente quand même des situations qui...
Oui, c'est fictif, bien sûr, il faut rappeler que c'est une fiction, tout à fait.
Je voulais pas que les gens fassent un amalgame trop douloureux ou facile avec certaines personnes qui existent. J'ai appelé ce village Nérussen, mais c'est pas très compliqué de décoder ça quand on connaît le village. Voilà.
C'est à côté de Colmar, dans le Haut-Rhin, et non loin de la Forêt Noire.
La Forêt Noire est en Allemagne, mais on est
sur les contre-Alpes.
voit au loin,
hein,
on est sur les contreforts des Vosges.
Tout
et
à fait.
On est sur la route des vins. C'est un très très beau
donc un village viticole avec... oui, il y a de bons vins là-bas en Alsace. Hein.
Oui, aussi.
On le sait, on le sait bien. Alors, si tu veux bien, Benoît, on va dérouler un peu le fil de l'histoire. Bon, bien sûr, on passera sous silence les moments cruciaux pour laisser le suspense à nos auditeurs, hein, afin qu'ils le découvrent en lisant le roman « Le garçon de l'intérieur » aux éditions Syros. Alors, on rappelle, donc voilà, c'est Jules qui, après son accident qui l'a rendu sourd à la suite d'une rave party qui a très mal tourné, eh bien, il est interne dans un centre pour malentendants à Toulouse. Et d'ailleurs, il a préféré y être interne, car au centre, il ne se sent pas handicapé, alors que chez ses parents, oui. Et pourtant, il adore ses parents, mais il trouve que ses parents le surprotègent un peu trop, le surprotègent. Donc, il préfère être interne dans ce centre où il se sent, eh bien...
comme les autres.
Comme les autres. Et donc, il est dans ce centre à Toulouse. Et cet été-là, donc un an après l'accident qui l'a mené à être sourd, eh bien, ses parents ont décidé de louer un gîte en Alsace, loin de Toulouse, là où ils ne connaissent personne, dans une famille où, justement, il y a un fils, enfin, il y a un garçon, Rémi, qui a 16 ans aussi, et qui est sourd, mais lui, de naissance. Alors que, bien sûr, Jules, lui, est devenu sourd. C'est là où on apprend aussi les subtilités entre sourd de naissance, devenu sourd, dans ce livre aussi.
Hein. Oui, ce sont des rapports qui existent.
Oui,
il y a une espèce de caste.
En tout cas, tel
que moi je l'ai ressenti, une espèce d'élitisme à être sourd de naissance, pour certains. Hein,
pour certains, oui, voilà.
Il ne faut pas généraliser, il faut faire attention aux généralisations, mais pour certains, les vrais sourds, ce sont les sourds de naissance. Mais bon... On se retrouve autour de la langue des signes,
oui,
notamment dans ce roman.
Oui, tout à fait. Donc d'ailleurs, les parents de Jules et même sa sœur ont appris à signer à la suite de son accident et de son coma, et pour pouvoir communiquer, bien sûr, avec leur fils, avec Jules.
Ben, un handicap, de toute façon, en général, un handicap impacte toute la famille.
Oui,
c'est intéressant de voir.
La famille est obligée de s'adapter. Enfin, sinon,
oui, il y a des familles qui vont très loin dans l'adaptation au handicap d'un enfant. Ouais.
Mais là, bon, ben voilà, pour communiquer, c'est le minimum, c'était apprendre le langage langue.
Et d'ailleurs, ils se moquent
française.
Un peu d'eux parce qu'ils sont pas encore très très à l'aise.
Oui, ouais, non, voilà, il y a des petites, ouais, c'est pas évident. Hein.
Non,
en plus, ça marche beaucoup par image, la langue des signes.
Enfin,
oui,
puis la syntaxe c'est pas la même.
Oui,
c'est
que
j'ai appris, c'est que ils vont d'abord du plan général
vers le sujet,
alors que on est dans l'inverse.
Alors que nous, c'est plutôt l'inverse, c'est vrai. Alors, il est déjà frappé, Jules, durant les 10 heures de voyage, parce que Toulouse, l'Alsace, c'est quand même 10 heures de voyage en voiture. Il est interpellé par les beaux paysages de l'Alsace. Il dit d'ailleurs une mer de verre. Hein. C'est vraiment très verdoyant. Et puis les noms aussi, il les trouve, les noms des villages, des villes, il les trouve exotiques, hein, consonance allemande, bien sûr. Puis il est frappé aussi par les sols pavés, les géraniums au rebord des fenêtres et puis les murs à colombage. Hein. C'est tout à fait typique de l'Alsace.
Ouais, ce sont des souvenirs personnel, hein. C'est vrai que...
Mais ça m'en a rappelé à moi aussi.
Oui, oui, non, mais voilà, et quand on arrive en Alsace, on arrive dans un autre pays. On se sent un peu à l'étranger quand on habite là-bas.
Ah oui, tout à fait.
Et je dis ça avec beaucoup d'affection parce que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Angleterre notamment, et moi j'aime ça, j'aime être à l'étranger, je me sens un peu... Pas concerné complètement, un peu en dehors de tout ce qui se passe.
Il y a une distance
que j'aime bien. Et je me sentais comme ça en Alsace. Je me sentais presque, on me pardonne certaines choses parce que je ne suis pas vraiment du pays.
Voilà. Voilà.
Et tout en Alsace rappelle ça, l'odeur des rues, ce n'est pas la même odeur. Il y avait du charbon à l'époque, quand j'y suis allé, il y avait encore du charbon dans les poêles. Il y a des odeurs de cuisson la nuit qui ne sont pas les mêmes. Les gens, il y a des usines qui produisent des odeurs qui sont différentes. La vigne a une odeur.
Oui,
les noms de villages sont très, très différents des nôtres, incompréhensibles, alors qu'ils ont une signification. Mais voilà, c'est ça qui est agréable.
Alors, donc, ils arrivent dans cette ferme où se situe une ferme viticole, où se situe donc le gîte, où ils vont passer quelques semaines d'été. Et alors, ils trouvent d'ailleurs, parce que pour lui, ferme, ils s'attendaient à une ferme, un genre avec des cochons, des canards. Et en fait, ils trouvent que la ferme est très, très propre, si propre qu'on croirait, dit-il, la ferme témoin d'un promoteur. Ça m'a fait sourire, quoi, parce que bon, les ados ont des fois des idées comme ça. Une ferme, pour eux, c'est forcément... quelque chose où bon, il y a du fumier, tout ça, alors que là, pas du tout. C'est une ferme viticole en plus.
C'est vrai qu'en Alsace, on n'est pas dans de la polyculture. Voilà. Il n'y a pas trop d'élevage.
C'est viticole.
Donc on est vraiment, en tout cas dans cette partie de l'Alsace, dans la viticulture. Il y a énormément de touristes qui passent. Il y a énormément de chais qui sont là pour accueillir les gens. Et c'est très, très propre. Les Alsaciens sont très fiers de ça, oui.
Alors donc là, il rencontre le fils donc, de la famille, Rémi, donc, qui est sourd de naissance, et puis sa sœur Camille, la belle Camille, qui a 18 ans et qui ne va pas laisser indifférent Jules. Et puis ensuite, donc, toute la famille donc, vit dans des maisons différentes, mais sur le même lieu. Et puis donc, Rémi va aussi apprendre à Jules qui sont les malgré nous. Ça, c'est intéressant aussi, j'ai trouvé ces Alsaciens qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors ça, c'est...
Je trouvais que c'était intéressant, parce que même moi, j'avais un peu oublié
En France de l'intérieur, donc, on n'est pas nombreux à se souvenir de ça, ou à savoir exactement ce dont ils retournent. Moi, j'ai découvert ça à 30 ans, quand je suis arrivé en Alsace, et j'avais jamais entendu parler des malgré nous. À la rigueur, j'avais un peu entendu des histoires sur la division d'Ice Reich dans laquelle il y avait des Alsaciens enrôlés de force, mais là-dessus, il y a une controverse, il y a tout un débat. Donc, je connaissais cet aspect-là, mais ça va bien au-delà. Il y a toute une frange de la population et une tranche d'âge de la population qui a été enrôlée de force, pas nécessairement dans des divisions SS, tout simplement dans la Wehrmacht. Et il y a toute une controverse là-dessus. Moi, j'ai eu des discussions un peu, pas houleuses, mais animées avec certains militants français, hein. J'entends de responsables de partis politiques qui disent que malgré nous, on aurait pu déserter.
Oui, non, mais ils n'y étaient pas. Hein.
Il faut toujours le confort 60 ans après de dire ce qu'on aurait dû faire. Et ensuite, il y a aussi le fait que tous les Français n'étaient pas à Londres, hein, loin de là. Mais c'est vrai que quand on leur reproche beaucoup d'avoir cédé à ça. Or, moi, j'ai rencontré malgré nous, et là, il ne s'agit plus d'histoire, il ne s'agit plus de sociologie, il s'agit de gens qu'on rencontre comme ça. Et moi, je ne suis pas un scientifique, je vais dans le sentiment, je vais sur les émotions, et j'ai vécu à travers les histoires qu'ils m'ont racontées, les émotions qu'ils traversaient au moment où ils m'ont raconté ça, ou au moment où ils avaient vécu ces événements. Et ce n'est pas facile quand on a 18 ans, 19 ans, de déserter, quand on sait que sa famille peut subir des représailles.
C'est
pas facile, il faut avoir aussi une certaine formation peut-être intellectuelle ou politique, un engagement qui fait qu'on a les ressources pour dire ça je l'accepte pas, je m'en vais. Et les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui m'ont beaucoup touché, j'avais envie de rencontrer leur histoire, sans rentrer dans le débat.
Juste raconter
l'histoire de Charles,
qui
existait. Moi, je l'ai rencontré pour de vrai, il s'appelait vraiment Charles et il est décédé aujourd'hui, mais il m'a raconté son histoire de malgré nous, et chaque fois qu'il m'a raconté son histoire, lui, il a subi trois uniformes vraiment différents, pour de vrai. Et chaque fois qu'il me racontait ça, il finissait en pleurant, en me disant que en 1975, la dernière fois qu'il avait traversé les Vosges pour aller en France de l'intérieur, on l'avait traité de boche au premier café où il s'était arrêté. Parce qu'il avait un accent alsacien. Et ça finissait en pleurs. Et moi, ça me touchait. J'avais envie d'en parler.
Oui. Voilà. Le problème le thème de l'identité, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, l'identité c'est important. Hein,
Oui, puis ça passe par le regard de l'autre.
Et oui, tout à fait. Donc justement, le vieux monsieur là, Charles, eh bien, c'est un ami de Rémi avec qui il aime bien discuter, donc il va le présenter à Jules d'ailleurs. Et puis donc survient l'épisode du vol des 300 pieds de vigne tronçonnés dans le domaine justement de la famille de Rémi et dans celle d'à côté, dans le domaine d'à côté qui appartient au maire du village. Et donc, c'est un peu le point de départ de l'enquête que va mener Jules. Et parce que, bien sûr, c'est une énorme perte financière pour un viticulteur que d'avoir des pieds comme ça qui se volatilisent en pleine nuit.
C'est pas un vol, c'est du vandalisme. Hein.
Oui, c'est du vandalisme tronçonné. Voilà. Donc, c'est une perte financière énorme. Parce
énorme.
Que quand on sait combien de temps il faut pour s'épanouir, etc. Puis pour après pouvoir faire du vin. Hein, parce que...
Et surtout que quand on connaît le prix de l'hectare de vigne en Alsace, on n'est pas loin de ce qu'on trouve dans le Sauternes, hein. C'est très très cher. Et ça, c'est vraiment arrivé. C'est-à-dire que quand je suis parti d'Alsace, j'ai lu un filet dans la presse. Il y a une centaine de pieds de vigne avaient été tronçonnés une nuit à Amershwihr, un petit village viticole. Et ça m'avait fait tilt. Ça, je m'étais dit, mais On n'a jamais su pourquoi. Je pense que c'était une sombre histoire de vengeance personnelle, etc. Mais moi, ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, mais c'est vrai, en fait, on met notre argent, nos bijoux, tout ça, dans des coffres, dans des banques.
Oui.
Mais l'or qu'il y a dans les vignes, il est sur pied, il est à l'extérieur, comme ça.
Oui,
il dort dehors, personne ne surveille, il n'y a pas de milice dans les vignes, ni de caméra ou de webcam, etc. Et c'est en fait complètement vulnérable.
Ouais,
et il suffit d'un fou ou d'une vengeance personnelle, de quelqu'un animé par quelque chose de mauvaise intention pour faire un ravage en un quart d'heure, parce qu'avec une tronçonneuse, un quart d'heure, vous faites un ravage. Et ça m'avait marqué, je m'étais dit, un jour, tu en feras quelque chose. Voilà,
j'en
ai fait quelque chose 15 ans plus tard.
Le garçon de l'intérieur. Alors, ensuite, il y a ce vol, cette destruction de vignes. Et puis, il y a aussi l'accidenté de la route, aussi, puisque le père de Rémi est chef des pompiers également. Il n'est pas que viticulteur et, du village. Et donc, les deux garçons vont voir cet accident, une fois qu'il s'est produit. Donc, une voiture qui a une plaque immatriculée en Midi-Pyrénées avec la croix occitane et donc un vieux monsieur au volant qui est bien sûr. Qui est mort et qui porte un médaillon autour du cou. Hein. C'est Jules qui remarque tout ça parce qu'il est très observateur, Jules.
Ouais.
Et donc, c'est un peu là aussi le point de départ de cette enquête, parce qu'il se pose des questions, Jules, parce qu'évidemment, la gendarmerie va vite classer l'affaire de cet homme complètement inconnu qui est venu s'écraser là en bas d'un ravin dans sa voiture, alors que Jules, lui, il pressent qu'il y a vraiment... quelque chose derrière, un secret qui est lié au village, lié à la période justement de l'annexion dont on parlait tout à l'heure, donc qui s'est passé des décennies plus tôt. Et donc il sent tout ça et il va mener un peu sa propre enquête en allant aux archives du journal régional, ce qui d'ailleurs va lui donner l'occasion de faire une balade en scooter avec la belle Camille.
Ouais, il ne faut jamais perdre une occasion de faire une balade en scooter avec une belle fille. Ouais.
Ah bah c'est sûr.
Non mais c'est la grosse différence entre ce roman et Silence, c'est que dans Silence, Jules était vraiment l'objet de l'enquête. C'est lui qui faisait l'objet d'une enquête policière. Là,
c'est lui qui mène l'enquête.
Il mène l'enquête. Alors évidemment, ça s'arrête. C'est pas le Club des Cinq. Ils peuvent pas. C'était très bien le Club des Cinq.
Je les ai tous dévorés en leur temps.
Là, à un moment donné, l'enquête ne peut être faite, menée que par la police, enfin la gendarmerie. Donc ils vont. C'est eux qui vont être déclencheurs de ça,
est vraiment
dans une enquête classique de roman policier, pour le coup.
Voilà.
Et ça m'arrive rarement de faire des enquêtes aussi policières, d'investigation comme ça.
Rendez-vous au 10 avril, c'était quand même une sacrée enquête policière.
Oui, mais souvenez-vous, elle n'aboutit pas. Elle n'aboutit pas. Elle a ceci d'original qu'elle n'aboutit pas. La véritable enquête dans Rendez-vous 10 avril, elle est sur l'histoire du personnage.
La
véritable enquête, elle est là, et c'est les voiles qui se lèvent petit à petit les uns après les autres sur ce qu'il a fait dans une vie antérieure ou dans les tranchées. Quoi. Ouais.
C'est vrai. Là aussi, souvenir de la guerre aussi.
Oui,
hein.
C'est vrai que l'histoire avec un grand H, oui, les guerres et les occupations, les moments clés de l'humanité, que sont quand même 14-18 et 39-45, je pense que c'est vraiment deux moments très très importants de notre civilisation humaine en général. Et ça me fascine. Oui, c'est vrai que l'histoire n'est jamais très loin dans mes préoccupations de romancier policier.
Et alors ensuite, donc, bien sûr, on ne va pas... Alors, il y a des petites... j'ai découvert une expression que je ne connaissais pas. C'est avoir un gâteau dans le four. Alors, ça m'a fait beaucoup sourire. Je connaissais le polichinelle dans le tiroir, mais je ne connaissais pas le gâteau dans le four.
C'est une histoire de préoccupation gastronomique.
Oui.
Je m'intéresse à
donc,
ce genre d'expression.
Pour nos auditeurs qui l'auront bien sûr certainement compris, c'est quand une femme atteint un bébé. Donc, j'ai trouvé que c'était très mignon comme expression et je ne la connaissais pas.
On aurait pu dire un kouglof dans le four pour l'Alsace.
Ah oui, mais justement, je venais...
Ouais.
On parle de kouglof, de flammekuche, ça m'a rappelé beaucoup d'excellents souvenirs de mes étés en Alsace, parce que ce sont des bonnes choses, et justement la grand-mère de Rémi fait des kouglof pour la famille, pour les Toulousains, et puis au 14 juillet il y a les flammekuche, qui cuisent dans le four là, sur la place du village. Et puis donc, bien sûr, on ne va pas dévoiler toute cette enquête que va mener Jules, accompagné de Rémi aussi. Et puis, il y a aussi la prise de conscience aussi que Jules va avoir. Je trouve qu'il a grandi dans ce roman, dans le sens où, grâce à Rémi, il prend conscience que ses parents ont fait beaucoup d'efforts depuis son accident, l'ont beaucoup aidé. Et il a cette prise de conscience que ses parents l'aiment beaucoup, en fait, pour avoir fait face à quand même cet accident quand son fils devient sourd à la suite d'une rêve partie, enfin, ou peu importe à la suite de quoi, mais c'est, pour des parents, c'est quelque chose de terrible. Et il se rend compte de ça, et je pense qu'il en sort plus grandi.
C'est vrai qu'entre 15 et 16 ans, il n'y a qu'un an, mais on le sait, hein, à cet âge-là, c'est une année déterminante,
et
il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête
d'un
jeune, surtout quand on est encore une fois frappé par un handicap définitif comme ça.
Je pense qu'on mûrit plus vite.
Ouais. Et j'aime bien, moi, les histoires d'ados et relations avec les parents. C'est une période de la vie
qui est importante,
à laquelle je pense que je suis resté un peu coincé ado, moi-même.
Et c'est bien d'avoir une partie.
J'ai pas de problème, hein, ça va très bien. Mais je pense que c'est important, quand on est adulte, de se rappeler de cette période-là, parce qu'elle est fondatrice.
Oui,
je pense
tout
qu'en
à
plus,
fait.
Évidemment, on est maladroit, on n'est pas bien, on n'est pas heureux forcément. Enfin, moi, ça a été le cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a raison à cet âge-là et qu'on sent pour soi et qui sont justes finalement et vers lesquelles on revient à un moment donné.
Qu'on revient après à l'âge adulte.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la conviction ou de l'ordre de l'intérêt ou de la sensibilité qui nous suivent. Et c'est bien de temps en temps de s'en rappeler et de revenir sur cet âge-là.
En tant qu'adulte, en tant que parent, pour nos adolescents,
ou même pour soi, je pense que c'est important de se rappeler
aussi.
De ça. Ouais.
Ben justement, moi, c'est ce qui m'a frappé à un moment. Donc voilà, grâce à Rémi, j'ai trouvé que Jules, avait cette prise de conscience, et je trouve que c'est important de se rendre compte que ses parents, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour être là, pour le soutenir. Et
c'est bien que les ados lisent aussi.
Et qu'ils s'en rendent compte aussi.
Mais j'avais envie
les parents ne sont pas que des embêteurs.
Pour ne pas dire autre chose, ouais. Je pense que j'avais envie d'écrire ça pour des ados en leur disant, il n'y a pas un message pédagogique, mais c'est vrai que c'est bien de temps en temps qu'ils aient aussi, eux, aussi la voix d'un adulte différent. Pas un prof, pas un parent, mais un auteur.
Et
un auteur, un narrateur. Quoi.
Oui.
Et qu'ils arrivent à sentir quand même que, oui, on n'est pas tous des gros cons. qu'on a quand même...
Tout à fait, qu'on n'a pas oublié que nous aussi, on a été ados.
Oui, puis bon, on peut être utile un peu, quoi, voilà.
Et puis donc, bon, une histoire d'amour, hein, bien sûr, avec la belle Camille. Et puis bon, après, bien sûr, il va rentrer à Toulouse. Et c'est justement dans les toutes dernières pages, hein, quand il est rentré à Toulouse, que nous, lecteurs, on saura enfin toute la vérité sur cette histoire, hein, sur toute cette enquête qu'il a menée là-bas en Alsace. Et il aura, le fin mot de l'histoire, la clé, quand il sera de retour à Toulouse. Alors vraiment, je recommande ce livre, justement, les vacances de Pâques approchant. C'est tout à fait le bon moment, pour le dévorer. Auditeurs, achetez-le pour vous et pour vos ados. Et profitez des vacances pour le lire. Vous allez vous régaler, quoi. C'est vraiment un très bon, très bon, très bon roman. Et puis donc, lors de la prochaine émission, on parlera de L'homme qui dessine. Alors là, ça sera plutôt la préhistoire. Ça ne sera pas la période d'histoire de la guerre.
C'est un polar préhistorique.
C'est un polar préhistorique.
Qui se passe au Mas d'Asile.
Ah oui, ah d'accord, voilà. Mas d'Asile.
Dans ce qui deviendra le Mas d'Asile.
Oui,
il y a pas encore le panneau
Oui, parce
routier,
que mais... autant préhistorique, ça s'appelait certainement
pas.
Donc ça sera l'occasion que tu reviennes à page sur Radio Occitanie, nous parler donc de L'homme qui dessine. Mais en attendant, donc, je rappelle le titre, Le garçon de l'intérieur, aux éditions Syros de Benoît Séverac. Alors merci beaucoup, Benoît, d'être venu nous en parler.
Merci de m'avoir invité. Merci
Et
beaucoup.
Puis, je sais que tu as d'autres projets, donc on en sera amené à se revoir plusieurs fois dans Page à Page. La semaine prochaine, votre émission le 25 avril débutera à 15h comme d'habitude sur Radio Occitanie, et je recevrai Marie sans E, Becher Priba, et son recueil de textes intitulé Overjose aux éditions Mélibé. Et puis on se quitte avec un petit clin d'œil, on va dire, à l'Amérique latine et à la liberté.
Amérique du Sud, il ne faut pas dire Amérique latine.
Ah pardon.
Il faut dire Amérique du Sud. Alors, non, parce que ça offense les Indiens.
Ah oui, pardon.
Ils ne sont pas latins.
Oui, tout à fait.
Et ils sont quand même américains du Sud.
Oui, oui. Non, mais tu fais bien
et
de
je pense
de
que
rectifier.
Gabriel Garcia Marquez aurait été sensible
oui,
à ça.
Ouais. Tout à fait. Alors, de l'Amérique, donc du Sud, et donc à la liberté. Hein, aussi, hein, puisque ouais. Voilà, et donc à Gabriel Garcia Marquez. On se quitte et à Diciats.
De la revolución, hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, Dios de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón, yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador. Yo Déjale su tierra elaborar.